je m'appelle Clément Wittmann et je suis donc en campagne avec cette idée d'objection de croissance que je colporte maintenant depuis une dizaine de mois.
Alors pour les auditeurs et les auditrices qui ne connaissent pas ce mouvement des objecteurs de croissance, ce mouvement de la décroissance, est-ce que vous pouvez nous résumer, nous dire les grandes idées de ce mouvement ?
Alors les grandes idées de la décroissance, c'est de, en fait, en quelque sorte, ça consiste à casser un mythe ou un dogme économique qui nous est avancé par la plupart des médias et des candidats à cette élection, donc qui consiste à dire qu'il faut de la croissance pour régler la question du chômage et de l'emploi. Nous, objecteurs de croissance, nous pensons et nous affirmons que c'est un mensonge, puisque il y a de la croissance depuis des années. Socialement, c'est un échec. Et puis, par ailleurs, il y a cette conséquence écologique de la croissance qui est absolument insupportable.
Les principaux relais de ce courant de pensée, c'est un journal aussi qui s'appelle La Décroissance ?
Oui, absolument. Il y a un journal qui s'appelle La Décroissance. Il y a d'autres mouvements, d'autres journaux, d'autres initiatives qui existent en région, région sud-ouest, etc. Donc aussi d'autres relais, d'autres, effectivement, des mouvements, le mouvement des objecteurs de croissance, le parti des objecteurs de croissance. Donc il y a un réseau associatif qui effectivement réfléchit et interviennent sur le terrain politique sur ce thème-là.
Alors ce courant de pensée se caractérise, vous l'avez dit, par une critique de la croissance, quand on parle de croissance, c'est croissance économique, mais c'est pas une critique de la croissance dans le sens de développement humain, quoi. C'est pas le retour à la bougie ou le retour au pot de bête.
Non, pour nous, simplement, je crois que, en tout cas en ce qui me concerne, je pense qu'on est face à un enjeu d'une ampleur quasiment historique, et de savoir si on va prendre des décisions politiques courageuses et audacieuses qui permettent tout simplement à ce que la vie puisse encore exister sur cette planète, quoi. Je me situe comme un candidat qui ose décrire la vérité aux électeurs, y compris même si cela est impopulaire. Donc je crois qu'on doit décrire la vérité sur l'état des lieux sur la planète, décrire aux citoyens l'état de la finitude des ressources physiques, hein, le pétrole, l'uranium, le sable pour faire le béton, etc. Tout ça, ce sont des ressources qui ne sont pas infinies. Donc à partir de là, si on veut dessiner les contours d'une société écologiquement et humainement acceptable, il faut remettre en cause absolument notre système économique qui est basé sur la production, le productivisme et l'hyperconsumérisme. Donc là, c'est vraiment un projet politique, pour moi fondamentalement politique. Et je me situe bien évidemment en porte-à-faux avec les autres candidats à cette élection.
Par rapport au parti dominant de l'écologie, le parti des Verts, comment vous vous positionnez par rapport à ce parti ?
Alors ce parti, je le connais assez bien pour y avoir milité pendant une vingtaine d'années, donc je suis, je pense, assez bien placé pour pouvoir affirmer que c'est un parti qui ne sert absolument à rien, dans la mesure où lorsqu'ils arrivent au pouvoir, ils sont quand même assez forts en matière de trahison et de renoncement de leur programme. J'en voudrais quelques exemples, simplement à citer que Dominique Voynet, quand elle était ministre de l'Environnement, elle a signé un décret autorisant l'enfouissement des déchets nucléaires. Dominique Voynet, qui était absente au Sénat le jour de la séance d'une loi sur les OGM, et puis dans les conseils régionaux de France, Europe Écologie participe avec le Parti Socialiste à la croissance, donc au développement économique de ces régions. Donc il y a une complicité, de mon point de vue, une complicité évidente entre Europe Écologie et la destruction des écosystèmes. Tout récemment, en région Lorraine, Europe Écologie a voté une subvention de 7 millions d'euros pour construire une usine d'avions à Skylander, donc entre Nancy et Pont-à-Mousson. Donc pour moi, c'est absolument contraire. C'est un parti qui maintient l'opinion dans le mythe de l'abondance, et ça, c'est extrêmement grave.
On va parler un petit peu de votre programme. Alors c'est difficile de développer tous les points de votre programme parce qu'il y a quand même pas mal de pages. On peut le voir sur votre site internet. Mais quelques points, à votre avis, qui sont importants de votre programme électoral ?
Oui. Alors, je pense que les points peuvent se résumer en quelques mots et derrière le mot limite, quoi. Pour nous, c'est important. On reprend très souvent la pensée de Cornelius Castoriadis, hein, qui considérait qu'une société, on mesure le degré de civilisation d'une société à sa capacité à s'auto-limiter. Donc, pour nous, effectivement, la notion de limite est importante. Donc nous sommes par exemple pour une limite aux revenus, pour en finir avec cette accélération indécente des inégalités. Nous sommes par exemple pour un revenu maximum admissible, une échelle de 1 à 4, entre si le revenu minimum est de 1500 euros, le revenu maximum serait donc de 6000 euros. Vous voyez, donc ça c'est déjà la limite, limite au revenu, limite à la vitesse, parce que nous sommes des militants du ralentissement, puis pour ça nous avons tous le symbole de l'escargot, parce que là encore une fois, cette accélération de nos modes de production, de nos modes de vie, de nos déplacements, n'est pas source de bonheur, de bien-être, mais aux sources de stress. Donc c'est effectivement sur cet aspect-là qu'il faut démocratiquement intervenir. Et puis limite à la taille des agglomérations, limite à la taille des exploitations. La notion de limite est vraiment fondamentale, encore une fois, si on veut revenir à une société humainement acceptable.
Parler d'approche démocratique, parce que quand on impose des limites, ça peut vite tourner à la dictature, à l'écofascisme. Il y a cette opposition dans les penseurs de l'écologie politique entre l'écofascisme et puis l'écologie conviviale, on va dire, quelque chose comme ça, quoi. Alors comment mettre des limites sans être traité de dictateur ou de fasciste?
Oui, je crois que je retournerai un peu la question en disant que nous sommes dans une situation de fascisme économique, en fait, hein, où en fait c'est l'ultralibéralisme qui nous impose son mode de vie. C'était une expression de l'écrivain anglais qui s'appelle John Berger, donc il parle de fascisme économique. Donc pour moi, il n'est pas question d'accepter cette notion de fascisme écologique, puisque je crois que la question en démocratie, c'est d'associer tout le monde, tous les citoyens, sans exclusion, parce que nous sommes tous sur le même bateau, donc à associer l'ensemble des partenaires de la société, des 7 milliards que nous sommes sur cette planète, à savoir comment nous allons orienter le vaisseau planète de sorte à ce que, encore une fois, nous arrivions dans une société décente, une société qui ne méprise pas ses membres. Et ça, ça passe pour moi effectivement par une décision politique. Je voudrais simplement citer deux exemples. J'ai rencontré il y a quelques mois, Jean Ziegler, député suisse, donc il travaille sur les questions de la faim depuis des années, et Jean Ziegler nous dit la question de la faim peut se régler du jour au lendemain, il suffit d'une décision politique, puisque la production agricole annuelle suffit à nourrir 12 milliards d'habitants, et nous n'en nourrissons pas 6, quoi. Donc chaque fois qu'un enfant meurt de faim, il a été, en quelque sorte, assassiné. Voilà, une décision politique suffit. Un autre exemple pour dire à quel point la décision politique est essentielle. Il suffirait de diviser par deux le budget mondial de l'armement, qui est de 1400 milliards de dollars par an, pour encore une fois régler les questions fondamentales de santé, d'éducation, de logement et de culture. Voilà, il suffit simplement de décisions politiques pour régler les questions fondamentales de respect des droits de l'homme, quoi. La Déclaration universelle des droits de l'homme pourrait être respectée à condition de diviser par deux. Et en divisant par deux le budget de l'armement, on a encore de quoi faire sauter la planète pendant 4 fois. Donc ça suffirait assez. Voilà, on n'a pas besoin de faire sauter la planète 6 fois. Donc moi, c'est vraiment cette urgence, encore une fois, de revenir à une société décente. Nous sommes des opposant à être 20% à nous accaparer 80% des richesses de la planète. Pour nous, c'est une répartition absolument inéquitable et absolument insupportable.
On est toujours en compagnie de Clément Wittmann. C'est, me semble-t-il, le premier candidat au présidentiel à faire étape à Arras cette année. Il est venu nous rendre visite dans les studios de Radio PFM. Avant de retrouver la suite de notre interview avec ce candidat, je vous propose d'écouter le petit teaser qui présente sa candidature sur Internet.
J'y pense tous les jours en me rasant.
Monsieur Clément Wittmann, président de la République.
Mais non, pas à ça. Je pense à la croissance de la pollution, à la croissance du chômage, à la croissance des inégalités, à la croissance des destructions de l'environnement. Quand la croissance est celle d'un arbre, c'est beau. Quand la croissance est économique, là ça ressemble plus à un massacre qu'à un progrès. Il est peut-être grand temps maintenant d'être objecteur de croissance, de sortir enfin de cette accumulation de biens complètement inutiles. Il est temps de relocaliser l'économie. Pourquoi nos objets font des milliers de kilomètres avant d'arriver dans nos magasins? C'est vraiment du n'importe quoi, c'est du gaspillage. Il faut revenir à des questions fondamentales. Que voulons-nous produire? Pour quels usages? Avec quelles conséquences sur la planète? Les lois ne doivent plus servir les intérêts financiers des multinationales, mais elles doivent servir l'intérêt de chaque citoyen. Ouais. Facile de parler. Maintenant, il faut agir. On peut agir en votant, mais depuis des années, tous les partis, de l'UMP, le PS, le FN, le Parti de gauche, et même les Verts, tous ont fait de la croissance leur projet politique. Tous soutiennent la croissance. Pour eux, c'est un mot magique. Mais ce n'est que de la poudre aux yeux. Quel résultat on observe? Un effondrement? Une crise écologique majeure? La planète saccagée? Maintenant, il n'y a plus qu'à se présenter aux élections présidentielles pour faire avancer ces idées d'objection de croissance. Mais ça coûte extrêmement cher. En bulletin de vote, en circulaire, l'énergie qu'il faut dépenser pour obtenir les 500 signatures d'élus. Comment ne pas se sentir seul?
Non, mais non, Whitman, tu n'es pas seul.
Moi aussi, je suis objecteur de croissance
et je soutiens ta candidature.
On va parler un petit peu de votre candidature. D'abord, comment ça s'est passé la désignation de votre personne comme candidat? Là, on lisait dans le journal Libération cette semaine qu'il y avait un petit peu un bisbille entre les différents partis politiques qui se réclament de la décroissance et que finalement tous les partis ne vous ont pas choisi vous comme candidat. Alors un petit mot là-dessus.
Oui, alors moi je fréquente effectivement, là on entre effectivement dans les discussions internes des partis. Malheureusement, le mouvement de la décroissance en France est éclaté entre 3 ou 4 structures, dont certaines ne souhaitent pas une implication dans la sphère politique. Donc moi j'ai participé depuis 4-5 ans à différentes réunions auxquelles, au cours de ces réunions, j'ai toujours proposé donc une dissolution de sorte à ne faire qu'un seul parti, qu'un seul mouvement. Ma proposition était refusée généralement. Donc à partir de là, je me suis dit voilà, je vais lancer une initiative encore une fois de colportage politique en allant à la rencontre des élus de manière à sortir de notre réseau de gens qui sont déjà convaincus. Moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment d'aller au-devant des gens qui ne connaissent pas le thème, qui sont, je pense, encore une fois, comme nous autres, confrontés à la fin des ressources, etc. Nous sommes, encore une fois, sur le même bateau. Donc, effectivement, malheureusement, je regrette. Je vous l'ai dit, il y a quelques temps en Suisse. En Suisse, le mouvement des objecteurs de croissance, il y a un seul mouvement. Donc, effectivement, il y a un gain d'efficacité assez appréciable.
Donc du coup, là, vous êtes un petit peu seul et solé pour cette campagne. Puis comment ça se passe? Vous la faites à vélo, cette campagne?
Je la fais essentiellement à vélo. Je la fais train, vélo, un peu de voiture des fois, vélo, voiture, mais un maximum en vélo, parce que c'est pour moi, c'est déjà un moyen de transport que j'apprécie énormément. Avant de faire cette campagne, j'ai déjà toujours fait beaucoup de vélo. C'est un symbole du ralentissement. Moi, j'ai une facilité de circulation. Je trouve que c'est un moyen, pour moi, un compromis assez acceptable entre efficacité de déplacement et respect de l'environnement. Voilà, c'est un moyen qui me séduit assez. C'est essentiellement par ce moyen-là qu'on se déplace, oui.
Alors, je vous disais, un peu seul ou il y a quand même des réseaux qui se mettent en route, là, comme ici, dans la région Nord-Pas-de-Calais?
Oui, il y a des réseaux en route, il y a des collectifs dans les régions, en région Rhône-Alpes, il y a des collectifs qui ont fait un travail énorme de contact auprès des élus, auprès des maires, en région Corse aussi, en région Sud-Ouest aussi, vers Toulouse, le Gers, etc. Donc il y a aussi des collectifs d'objecteurs de croissance qui ont fait un travail de recherche de signatures d'élus. Je peux parler aussi des Côtes d'Armor, tout ça. Donc bien sûr, il y a un collectif, il y a une équipe de campagne, je dirais de 4-5 personnes qui travaillent quasiment à temps plein sur cette campagne, quoi.
Alors on va parler du traitement médiatique de votre candidature, des présidentielles de manière générale. Vous nous disiez, on parlait un petit peu avant l'interview, le papier dans Libé, c'est le premier à être paru dans la presse quotidienne nationale. Alors comment vous voyez un petit peu le traitement médiatique de ces élections?
Alors, c'est, de mon point de vue, c'est une élection, comme les précédentes d'ailleurs, une élection présidentielle absolument, je dirais, truquée, dans la mesure où ce sont les médias qui présentent aux électeurs les candidats qu'ils doivent choisir, en écartant d'emblée ceux qui sont considérés comme n'étant pas sérieux, ou n'étant pas bons, ou n'étant pas présentables. Je voudrais faire référence ici, par exemple, à l'excellent, je voudrais inviter les auditeurs... donc à faire la démarche d'aller voir les chiens de garde, les nouveaux chiens de garde. On voit à quel point notre système médiatique met en place des candidats. Il y avait aussi les travaux de l'association Acrimed, l'association critique des médias, qui analyse toujours la façon dont les médias interviennent sur les candidatures. Donc on a vraiment une opinion qui est orientée d'emblée entre quelques candidats qui seraient acceptables par, de mon point de vue, le capitalisme du désastre. Donc s'ils sont présentés, c'est qu'ils ne représentent pas, encore une fois, un danger pour la remise en cause de l'ordre établi, qui ne remettent pas en cause cette domination des uns sur les autres et de tous sur l'environnement, une formule qui nous est chère à nous, objecteurs de croissance. Donc effectivement, les médias ont une responsabilité énorme, encore une fois, du fait que cette thématique de la décroissance reste marginale. Alors que, de mon point de vue, elle s'impose tous les jours un peu plus, que ce soit la crise écologique ou la crise sociale, cette barbarie. Nous avons cette expression de dire décroissance ou barbarie. Nous sommes dans cette croissance, à la fois, encore une fois, je l'ai dit tout à l'heure, ne règle pas les questions sociales, mais impacte de façon absolument dramatique les générations à venir, sur le plan, encore une fois, de la survie des écosystèmes. Nous sommes, par exemple, tous cette menace de cette bombe à retardement que constitue le méthane, hein, c'est 12 000 milliards de mètres cubes de méthane qui commencent à se libérer du permafrost. Nous ne pouvons pas ignorer toutes ces menaces-là, et je pense que un programme politique qui ignore tout ça, c'est un programme irresponsable.
Clément Wittmann, candidat au présidentiel 2012 pour défendre les idées de la décroissance. Il en est à 150 parrainages, 150 signatures d'élus, donc il sera, semble-t-il, difficile pour lui de maintenir sa candidature. Sachez qu'il est dans la région pour encore une semaine, donc si vous voulez le rencontrer, échanger avec lui autour de ses idées, de son programme, alors il y a un rendez-vous ce soir à Monchy-Breton, chez Tartous et compagnie, à 18h30. Demain, il sera à Uccellier, toujours dans le Pas-de-Calais, à la salle de la communauté de communes, à 20h. Le 5 mars, donc lundi prochain, au Café Citoyen à Lille, à 19h30. Le 7 mars, la semaine prochaine, à la Mresse, toujours à Lille, à 19h30. Et puis enfin, le 9 mars, du côté d'Aulnois, Emery. Plus d'infos sur internet, clementwittmann2012.fr. Wittmann, ça s'écrit W-I-T-M-A-N. Yeah.